tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com. Le 13-30.
Le 13-30.
Un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure, en direct sur Radio Grenouille, à 13h30. C'est irrégulier.
Et en direct.
Chouette, chouette.
Mais c'est toujours à la même heure.
Bonjour à toutes et à tous. Il est 13h30, ou presque, sur les ondes de Radio Grenouille. C'est Sébastien à la réalisation et c'est Stéphane au micro pour vous accueillir dans ce 13h30 consacré à la semaine de la pop philosophie. Une semaine qui a commencé hier, lundi 26 octobre, et qui se déroule jusqu'à samedi 31. La semaine de la pop philosophie, c'est depuis 2009 maintenant à Marseille. Elle s'est déroulée également à Bruxelles, ça se passe depuis 3 ans là-bas également. Alors qu'est-ce que c'est que la pop philosophie? Nous allons sans doute en parler un petit peu aujourd'hui avec nos invités. Il s'agirait de créer des concepts à partir d'objets issus de la culture pop et médiatique, pour aller vite, des concepts philosophiques. Mais c'est aussi, pour aller très vite toujours, selon le créateur de ce concept de pop philosophie, Gilles Deleuze, une volonté peut-être de rendre la philosophie aussi sexy que la pop, je dirais, pour aller vraiment très très vite. En tout cas, pendant ces 6 jours de festival, plus de 20 intervenants interviendront dans différents lieux de Marseille, au Théâtre National de la Criée, à la Cité de la Musique, à la Maison de la Région, à la Chapelle du Centre de la Vieille Charité, au CIPM, au Cinéma Les Variétés, à l'Alcazar, à la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, à Montevideo ou encore au FRAC PACA. Vous retrouvez l'intégralité de cette semaine de la pop philosophie sur le site internet www.semaine de la pop philosophie, tout attaché, .fr. Et ça a commencé hier, pour vous donner quelques exemples, avec des conférences autour de l'amour, philosopher ou faire l'amour, avec Ruben Ogian et Robert Maggiori. Ça va continuer tout au long de la semaine avec des interventions qui s'intéresseront aux blockbusters, à la philosophie du poker, l'évolution que les machines ont introduite dans la production musicale. Et vendredi 30 et samedi 31 octobre, cette semaine de la pop philosophie se clôturera avec un week-end spécial consacré au nouveau réalisme sous la direction scientifique de Maurizio Ferraris, où de nombreuses interventions auront lieu, notamment au centre de la Vieille Charité, plus précisément, parmi lesquelles Laurent de Sutter ou encore Tristan Garcia, semaine de la popphilosophie.fr, donc pour toutes les informations. Aujourd'hui, nous sommes ensemble parce que ce mardi 27 octobre, nous avons eu le plaisir et la possibilité de recevoir un intervenant qui, ce soir, va nous parler du tube. Il s'agit de Antoine Aignan. Bonjour Antoine Aignan.
Bonjour.
Nous sommes également avec Jacques Serrano, initiateur de cette semaine de la pop philosophie dans la lignée des rencontres place publique. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Sentez-vous libre d'intervenir si vous le souhaitez à tout moment. Antoine Aignan, vous êtes sociologue, mais il est bon de savoir que vous avez également une formation d'ingénieur et de musicologue. Je me souviens, pour ma part, jeune étudiant compulsé fiévreusement l'économie du disque en France, que vous avez co-signé en 1978, un des premiers ouvrages consacrés à ce champ d'ailleurs, hein, à l'époque. Et depuis, vous n'avez cessé, avec une approche nettement plus sociologique, de vous intéresser notamment au champ musical, que ce soit celui du rock, de la passion musicale, du rapport à cet objet musique qu'on peut avoir, hein, jusque également à des publications qui s'intéressent notamment aux pratiques amatrices. On en reparlera d'ailleurs peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais ce à quoi nous allons nous intéresser, puisque c'est l'objet de votre intervention ce soir, mardi 27, qui va se dérouler à la Cité de la Musique, le tube. Et si, au lieu de chercher à l'expliquer, on se demandait qu'apprendre de lui? Alors déjà, vous d'entrée, vous posez un certain type d'approche qui ne se veut pas purement explicatif. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous poser pas une première question, mais c'est vrai que quand on parle de tube, on a toujours tendance à se dire ou à imaginer qu'il y a des sortes de producteurs richissimes et qui ne visent que de s'enrichir plus et qui possèdent des ficelles magiques ou des méthodes ou pour produire du tube un petit peu au kilomètre qui viennent inonder les ondes FM dites commerciales. Or, selon vous, il n'y a pas de ficelle pour faire un tube, il n'y a pas de méthode véritablement, il n'y a pas de moule préfabriqué.
Non, je crois que la question qui est derrière, et c'est peut-être dans ça que je comprends faire de la pop philosophie, hein, c'est pas faire de la philosophie ou des analyses d'objets qui seraient considérés comme pop ou populaires, c'est plutôt s'adapter à l'existence de ces objets pour faire la philosophie qui leur convient. Donc, moins leur faire leur philosophie comme on fait l'affaire à quelqu'un, que profiter de l'expérience qui constitue pour nous aider à penser des objets qui éventuellement peuvent être très intéressants. Alors l'un des problèmes du tube, que le mot lui-même dit très bien, hein, parce qu'un tube c'est un tuyau, ça veut dire d'un côté on injecte de la musique et de l'autre côté on reçoit des dollars. Hein. Et donc c'est uniquement défini par son effet, ce que vous reprenez. Et un tube, ce qui a marché. Ben oui, mais de là à le faire, les deux poncifs, quand on est face à deux poncifs symétriques, en général, c'est mauvais signe. Donc d'un côté, il n'y a pas plus fabriqué, c'est quoi le tube, c'est le fric, la technique et des margoulins qui arrivent à faire des savonnettes et à les vendre en masse. Et puis en même temps, il y a une phrase qui circule tout autant dans le milieu qui est si tout le monde savait les faire, on en ferait. C'est-à-dire que rien n'est moins contrôlable. La plupart du temps, quand on essaye d'en faire, on n'y arrive pas. Donc il y a une espèce de mystère du tube que je ne défends pas. Hein. Donc l'idée de se mettre à la place des personnes concernées et de se demander ce qu'elles fabriquent me paraît une meilleure méthode, et peut-être une pop méthode ou une ethno-méthode, auraient dit les ethno-méthodologues il y a longtemps. Comment les gens fabriquent, les gens concernés, c'est-à-dire à la fois les producteurs, mais aussi les artistes, le public, s'arrange avec lui-même et pour élire certains objets musicaux qui atteignent parfois des succès faramineux. Après, ça n'empêche pas l'analyse, parce que c'est un petit peu ça le travail que j'ai essayé de faire. C'est que ces mots, un peu eux-mêmes savonnettes, cachent des réalités assez différentes. Donc il y a des énormes succès pour lesquels on ne pense pas directement au mot tube. Donc en se demandant, par exemple, une grande chanson de Brassens comme La mauvaise réputation, ou La petite musique de nuit de Mozart, on se dit, bien sûr, parmi les œuvres de ces gens-là, c'est quelque chose qui a fait tube, mais c'est plutôt comme une espèce d'épitomée, de concentré, de condensé particulièrement réussi et particulièrement simple de tout ce qu'ils ont fait par ailleurs. Donc c'est plutôt une sorte de signature sur une œuvre. De même, il y a des énormes succès, par exemple en rock. Dire que Satisfaction est un tube, c'est probablement vrai au moment même où il sort. Moi, je me souviens de l'écouter sur Radio Luxembourg à ce moment-là pour la première fois. Boum, ça donne un coup de poing. Là, il y a un effet qui ressemble au tube. Mais dans l'ensemble, c'est pas vraiment un tube non plus. C'est-à-dire, les Stones sont restés sur ce genre de voix criarde, de jeu des guitares, d'opposition aux Beatles, ça pendant des années. Ils ont construit ça, et puis il y a un de ces morceaux des Stones qui fait partie de l'histoire des Stones et qui a surnagé au-dessus du tout. Donc c'est plutôt leur façon de faire œuvre.
Alors, mais c'est quoi un tube alors ?
Alors, le tube, très caractéristique, c'est bien lié à cette histoire d'inexplicable. C'est-à-dire, c'est très souvent un tube qu'un artiste a fait et après il essaie désespérément d'en refaire un et il ne le retrouve jamais, hein, ou il le retrouve mais qui n'ont rien à voir, comme je sais pas, Whiter Shade of Pale, où il y en a des dizaines. Je me souviens, pour prendre les années de ma jeunesse dont on parlait pour le rock, les Yardbirds par exemple, un groupe que des bons rockers connaissent, mais enfin, donc Heartful of Soul, ça avait marché, ou Gloria, qui était dans toutes les boîtes après le groupe. Donc c'est un coup isolé. Alors le coup isolé, c'est intéressant, parce que ça permet de casser un peu cette opposition entre on fabrique, on calcule et on en fait, ce que l'industrie du disque n'arrête pas d'essayer de faire. Hein. Je me souviens aussi de la même période, il y avait les Monkees. C'était un groupe calculé, le premier groupe. Alors ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour calculer. Hein. Et ça fait deux chansons puis un flop. Hein.
Un des premiers boys band, on appelait ça par la suite.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est-à-dire que vous nous dites, en fait, le tube, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiateté, du succès donc. on va dire, commerciale, même si ça, c'est de plus en plus difficile à mesurer. Aujourd'hui, il faudrait prendre en compte, je ne sais pas, les vues YouTube, par exemple, ou d'autres indicateurs. Mais par exemple, je suis un peu dubitatif, par exemple, la mauvaise réputation ou Satisfaction des Stones, pour vous, ce n'est pas vraiment un tube, même si pourtant, c'est inscrit quand même. Ce sont des chansons que le monde connaît.
Oui, mais un grand succès n'est pas forcément un tube. Enfin, c'est un peu arbitraire tout ça, hein, mais si on cherche, ce qui était un peu ma question initiale, la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus spécifique dans ces énormes succès, un peu imprévisibles, dont même la qualité ne fait, ce qui n'est pas le cas de la mauvaise réputation, on dit c'est les Stones, vous ne pouvez pas être plus Stones que ça, alors que de temps en temps, il y a un truc qui sort comme ça. Alors, l'idée qui est importante, je pense, c'est que ça permet de ne pas opposer ces ficelles, causes, explications. Les ficelles quand c'est du côté des producteurs, explications quand c'est du côté du sociologue qui dit c'est les jeunes qui veulent s'exprimer, c'est pas très malin un sociologue, ou l'air du temps, c'est des fausses explications. Il ne faut pas s'opposer à elles. Les producteurs, au sens large, hein, pas seulement le type avec le cigare, mais aussi les musiciens, n'arrêtent pas d'essayer de se coltiner avec ces 2-3 minutes de musique qui ressemblent à des tas d'autres et qui pourtant ont ce petit détail qui va faire la différence. Donc il faut toutes ces causes, et elles sont très hétérogènes, hein, c'est des éléments musicaux, pour en parler, il y en a quand même. Hein. Les ficelles, c'est une espèce de sensibilité à l'air du temps, c'est la volonté de représenter, par exemple pour le rock, une nouvelle génération. Donc tous ces éléments qui sont très hétérogènes, hein, il y a du social, il y a du collectif, il y a du corps, il y a de la musique, sont entassés et loin de garantir un succès. C'est le moment intéressant et notamment parce que les producteurs en perdent en partie la maîtrise, hein. C'est ce moment où il y a un effet de cristallisation ou une espèce de rencontre et qui alors se construit elle-même. C'est-à-dire dès que ça fait, maintenant on dirait du buzz, il y a un effet circulaire qui le rend très important.
Qu'est-ce qui fait le tube ? Pardon, oui.
Et là souvent, ce côté imprévisible fait partie de cette caractéristique-là. C'est précisément parce que ça n'est pas réductible à toutes ces ficelles qu'on a déjà entendues, qu'il y a quelque chose de plus, même si la personne qui l'a fait et pas forcément la mieux placée pour comprendre pourquoi il y a quelque chose de plus, c'est ce quelque chose de plus qui fait la différence. Et ça, ce point-là, d'avoir toutes les contraintes différentes, d'autant plus attention qu'on veut du fric avec ça, qu'on fait ça pour le commerce, et que ça ne suffit pas pour le garantir, mais que ça force à une attention à ce qu'il y a de plus neuf dans ces événements musicaux au sens large, ça me paraît très intéressant. Ça donne au tube une autre dimension, c'est-à-dire que c'est une espèce de révélateur de ce qui est le moins prévisible dans les corps. Ça permet de formuler différemment la question que vous posez, c'est-à-dire pourquoi je dis que la mauvaise réputation ou Satisfaction, c'est pas tout à fait des tubes, c'est que ça ne cherche pas autant cet élément d'imprévisibilité, d'aller ailleurs, de guetter un moment qui échappe. C'est plutôt que, comme des musiciens classiques, un genre s'est construit, on a imposé un style de rock en se battant contre d'autres styles, on a imposé la voix, la guitare de Brassens, et là, il continue son petit bonhomme de chemin, comme il dirait.
Alors, le tube, est-ce qu'il serait par nature périssable, par exemple, le tube, alors, à ce moment-là, hein? Ou est-ce qu'un tube peut survivre à son époque, voire les traverser?
Ah, les grands tubes, c'est probablement une de leurs propriétés. Alors là, ça crée en effet une autre variable de sélection. Ce auquel j'ai pensé pour ce soir, c'est plutôt frappant la façon dont précisément cette espèce de condensation de quelque chose qui les a dépassés leur permet aussi de durer de façon assez étonnante. Hein. Alors de durer, quand c'est Satisfaction, on voit un petit peu pourquoi. Quand c'est des tubes beaucoup repris, avec la technique des covers, il y a un travail actif pour le faire. Il y en a d'autres où je pense qu'on n'écoute plus, mais qui restent des marqueurs quasi historiques. Je veux dire, tous les garçons et les filles de mon âge, etc. On ne chante pas ça dans sa baignoire tous les matins. Ça fait quand même partie de l'histoire. Alors si on compare ça à la quantité de musique et de paroles que ça produit, c'est quand même un effet extrêmement particulier. Donc le tube est aussi un tube dans le temps, probablement. Il crée une espèce de durée assez paradoxale. Oui.
Le tube, c'est aussi le tube des canaux de diffusion, évidemment. C'est concomitant au système de production et de diffusion musicale dans lequel on vit. Mais c'est quand même, ce que vous nous dites aussi, c'est que un tube, c'est l'éruption un peu massive de cette rencontre qui se fait entre une production musicale et un public, ce qui est finalement la nature même de la musique. Mais là, ça se fait à une échelle qui est qu'on ne peut ignorer, quoi, en fait.
Oui, l'effet démultiplicateur, c'était déjà c'était un petit peu l'esquisse au moment du rock. Dans beaucoup d'analyses sociologiques du rock, ont rappelé la formation du disque, enfin de l'industrie du disque, en même temps. Mais même là, hein, c'était compliqué, puisque les majors ont commencé par se faire avoir, ont commencé par perdre. Non, c'est pas eux qui avaient les bons rockers, c'est pas eux qui avaient les aux États-Unis avant le début du rock'n'roll. Évidemment, c'était pas une opposition entre les indies qui seraient des bons libres près du peuple, faisant de la musique spontanément, et puis les horribles firmes de disques internationales qui les exploitaient, puisqu'ils demandaient qu'eux à diffuser et après. Mais le jeu à deux était quand même plus compliqué. Il fallait bien qu'il y ait un petit milieu de créateurs avec producteurs et musiciens. Les premiers producteurs de rock sont très très proches des groupes qu'ils enregistrent. Et qu'à partir de là, il y a aussi ce travail de démultiplication qui évidemment était déjà très important, hein, parce qu'il est, mais c'est d'abord qui a cru d'une façon linéaire. Énorme, n'importe quel tube qui date 5 ans plus tard qu'un tube précédent est déjà 10 fois au-dessus, alors qu'il est beaucoup moins connu que Satisfaction. Et puis maintenant, avec évidemment la démultiplication des moyens eux-mêmes, Internet, les covers. Oui, l'effet de masse n'est pas une sorte de diffusion naturelle par l'atmosphère. Hein, c'est extrêmement entretenu. C'est intéressant aussi pour la dimension internationale. Hein, parce que quand on dit mondialisation, world music, c'est pas du tout pareil de faire attention à la pluralité complètement hétérogène des différentes façons, non seulement d'avoir des musiques différentes, mais de concevoir ce que peut être la musique, le concert, le rapport au public, ou d'avoir une espèce d'immense supermarché de toutes les œuvres avec des étiquettes différentes, et que ce soit Jamaïque, Afrique, banlieue parisienne ou Manchester, c'est pareil.
On va continuer cette discussion après une petite pause musicale, si vous voulez bien, tout comme il y aura des illustrations musicales lors de votre conférence ce soir à la Cité de la Musique, Antoine Aignon, le tube. Et si, au lieu de chercher à l'expliquer, on se demandait qu'apprendre de lui, c'est ce soir donc à 20h dans le cadre de la semaine de la pop philosophie, et on écoute ce tube, ou presque, je sais pas, on écoute et on en reparlera juste après.
She was my
Billie Jean, donc, de Michael Jackson, à qui on doit la version originale de cette chanson, reprise ici par un chanteur jamaïcain du nom de Shine Head. Petit clin d'œil donc à cette intervention d'Antoine Aignon ce soir à la Cité de la Musique autour des tubes. Alors,
Matinée d'une fois dans l'Ouest.
Oui, matinée d'une. Tout à fait. Peut-être un autre tube à sa manière aussi, la musique d'Ennio Morricone, même si bon, il y a une histoire de timing un petit peu particulière. Mais puisqu'on parle de ça, c'est vrai que quand on pense par exemple à Billie Jean de Michael Jackson, quand on est de ma génération et qu'on a découvert cette chanson à la télévision à l'adolescence, on peut pas s'empêcher d'avoir ces images aussi. Hein. Voilà, on voit les images de cette chorégraphie de Michael Jackson sur le quai du port avec les plaques, des sortes de plaques lumineuses qui s'allument au sol alors qu'il bouge comme ça. Il y a des éléments extra-musicaux qui viennent aussi faire le tube, non?
Tout à fait. Mais...
c'est pas que de la musique.
Non, je parlais d'hétérogénéité, donc ça fait un mot bien compliqué pour dire ça. Hein. C'est-à-dire que l'une des faiblesses de l'explication en termes strictement de fabrication, c'est qu'on aurait un peu l'impression qu'en mettant deux gimmicks, une intro solide et puis des harmonies bien classiques, et de trouver le bon beat là-dessus, on a le tube. Alors, ces éléments musicaux existent. Hein. Et ils existent depuis le classique, pour le coup, c'est pas un crime. Hein. Essayer de faire plaisir avec la musique, même si le plaisir, ça peut être plus ou moins sophistiqué, retardé, ça fait partie du plaisir que de le retarder, tout le monde sait ça. Et donc ces techniques musicales existent, elles sont intéressantes. Hein, elles sont intéressantes parce que c'est toujours fondé sur la répétition. Donc la répétition, on se dit, ben, la répétition, c'est faire toujours la même chose. Et oui, si vous faites toujours la même chose en rythme, et ben, non seulement c'est pas toujours la même chose, mais le fait même de donner un rythme appelle à ce que quelque chose se passe. Donc le lien entre répétition et petite pointe de nouveauté, plaisir, et pas du tout un lien mécanique, ou bien c'est neuf, ou bien ça se répète. Au contraire, le neuf vient de la répétition. Or ça, Chacon, Passacaille, le canon de Pachelbel, ça va faire très bien, hein, les Fandango, etc. Et donc un canevas harmonique bien carré qui impose une progression... une introduction qui décale, des instruments qui soulignent certains aspects, un aspect, alors là, ce que vous soulignez, est-ce que c'est de la musique ou non, l'aspect corporel, avec évidemment la dimension de la voix, pour 99% des tubes, la voix, surtout si elle est raillée comme Ferré, si elle est suraiguë, on ne sait plus comment pour Janis Joplin, ou si c'est celle des Stones ou des groupes rock qui commençaient à affirmer leur voix éraillée, etc., ça fait complètement partie de cette dimension. De mon temps, quand j'ai vécu ça au premier degré, comme vous faisiez allusion pour Michael Jackson, la danse en tant que telle était peu présente. Il commençait à y avoir la boîte, mais c'est pas pareil la boîte, c'était surtout pour fumer, pour draguer. Alors là, le fait même que le corps, à travers les spectacles scéniques du rock, qui était une vraie invention, hein, il commençait à compter avec la danse dans toutes ses formes, dans son sens large, pareil, ça veut dire que le corps lui-même fait partie de cet appel au plaisir. Et autre composante qui fait quand même partie des ficelles de fabrication du tube, moins présente dans le classique pour le coup, sauf quelques morceaux, c'est cette insistance sur une rythmique. Si vous trouvez 3-4 façons de décaler un rythme que vous avez installé, après qui va durer fort, en l'introduisant par une introduction qui frotte avec lui, Hey Joe, le début d'Hey Joe de Jimi Hendrix, c'est la fabrication. Il y a 4 notes de guitare un peu bizarres, déjà, et dingue, on tombe dans le tempo Hendrix. On entend ça, on est sûr du tube. Sûr du tube, voilà une phrase qu'il ne faut jamais dire. Il y en a plein qui sont restés dans les valises. Mais ça veut dire que tous ces éléments de fabrication sont bien là, et vous avez raison, c'est moins une valise où il y aurait de la musique, une valise où il y aurait du corps, une valise où il y aurait des identités de jeunes ou sociales ou de milieux ou de races qui viendraient nous donner la recette, puis on n'aurait plus qu'à mélanger. C'est plutôt que ça interroge tous ces mots-là. Oui, qu'est-ce que la musique? Est-ce que c'est des harmonies qui se répètent? Est-ce que c'est ce rythme lancinant qui fait bouger les corps? Est-ce que c'est ces émotions de la voix? Donc on appelle le désir, mais désir de quoi? Et puis enfin, cet élément identitaire, non pas des identités qui existent. Ça, c'est vrai, c'est les musiques signaux, plutôt. Si vous entendez la Cumbersita, bon, vous pensez à l'Argentine. Et si vous êtes argentin, vous fondez. Et puis si vous n'êtes pas argentin, vous trouvez ça bien. Bon, mais c'est des signaux. Et l'identité rock, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un tube qui s'appelait My Generation. C'est avec le double sens de génération, d'ailleurs. Un âge, mais pas un âge qui existe. un âge qu'on est en train de formuler. Donc, generation, on génère la génération. Et ils en étaient parfaitement conscients. Donc, comment on devient jeune, ou pour les banlieues, comment on devient rap, hein, c'était bien une façon de se produire soi-même à travers de la musique. Alors ça, le producteur avec son cigare, est-ce qu'il le vise comme un calcul commercial? Est-ce qu'il n'en tient pas compte? Les deux seraient faux. Évidemment qu'il suit ce genre de mouvement, qu'il ne peut pas les décider, qu'il doit donc avoir cette posture qui ressemble à la posture de l'artiste, hein, qui est celle d'anticiper très légèrement des choses qui n'existent pas, mais qui sont sur le point d'exister et auxquelles on donne corps, comme on dit très justement. Et là, le tube après coup, c'est toujours plus facile à expliquer. Très souvent, on voit à quel point, dans des directions très différentes, il a été capable d'exprimer ces choses-là. Le yéyé dont on se moque, qui est quand même une machine à tube, c'était ça, c'était vraiment... Mais au fait, ce peuple-là, dont on parle que en le représentant politiquement, en le méprisant, le défendant sociologiquement, de quoi il s'amuse? Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qui peut lui plaire? Une midinette de 14 ans, est-ce qu'elle n'a pas le droit de rêver à ses amours enfantines? Eh bien, ils ont su l'exprimer. Pas si négligeable.
Il y a quelque chose qui me... en même temps, vous avez déjà un peu répondu à la question, mais je rebondis quand même là-dessus, parce que le mot revient dans votre bouche régulièrement, celui de génération. On sait que depuis l'avènement du rock, cette musique-là a été, au début un peu grossièrement, mais de plus en plus professionnellement, marketée, et particulièrement à destination, j'allais dire, d'un public plutôt jeune, hein, mais même adolescent. On sait, de l'autre côté du tube, j'ai envie de dire, par exemple, des spécialistes du cerveau s'entendent plutôt à dire aujourd'hui qu'à cette période de l'adolescence, justement, la musique jouera un rôle tout particulier dans la manière dont le fonctionnement même de notre masse cérébrale en tant qu'individu, la manière dont on se définit est particulièrement sensible à la chose musicale, hein, on va dire. Donc, j'accuse pas les producteurs de musique d'être des spécialistes de la chirurgie du cerveau et de vouloir se servir de ces outils-là explicitement, mais il y a quand même quelque chose. Le tube, c'est... Il n'y a pas de tube sans une génération qui vous disiez, bon, my generation, donc ils avaient en même temps conscience de faire une génération, mais en même temps, c'est toujours une génération qui fait un tube un peu, non, aussi? Et plutôt oui. Une jeune génération.
Oui, mais c'est deux idées un peu différentes. Que le commerce vive d'amplifier, de guetter tous les signes et de transformer ça en dollars ou en euros, maintenant, c'est vrai. Ça ne veut pas dire, c'est un peu le problème du Coca-Cola, oui. Ça ne veut pas dire simplement qu'on met un addictif et puis qu'après, ou la cigarette, et puis qu'après on a un public captif. Hein, parce que le public en face, il est sacrément mobile, difficile à saisir. Donc la deuxième partie de votre formulation, que évidemment il y a des commerçants, des techniciens, des producteurs pour non seulement... répondre gentiment à la demande et vous produire le produit que vous voulez, mais pour essayer de le multiplier, de foncer, d'insister dans une direction dès qu'elle se dessine, ça, il y a tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce genre de produit, ce qui fait une différence avec la cigarette ou le Coca-Cola, c'est que le public est très actif. C'est-à-dire qu'une stratégie qui consisterait à dire ben maintenant, c'est le reggae qui marche, je vous mets du reggae, elle est sûre d'échouer. Les producteurs le savent. Et bien là, il va falloir aller ailleurs parce que le public est en train de... Donc il y a au moins, ça ne veut pas dire que c'est symétrique. Hein. Alors en tout cas, l'argent, il va surtout d'un côté, il part d'un côté, il va de l'autre. Mais que ce jeu de guet, et c'est ça qui m'intéresse un peu dans le tube, cette façon de dire qu'on est à la fois les plus commerciaux, techniciens, fabricateurs, et que malgré ça, toute cette machine-là, loin de produire de la musique au maître, c'est ça qui est derrière comme accusation, et de la soupe indifférenciée, c'est ce qui rend très sensible, voilà. Et du tube à coup sûr, non. C'est celui-là qui guette des sensibilités nouvelles, pour dire un mot, qui est faible par rapport... Je vais rebondir là-dessus, parce que quand on ne dit pas c'est juste de la musique fabriquée, on dit bon ben... Comme ça, un peu avec au flair, ça guette l'air du temps, etc. Mais c'est des choses beaucoup plus précises que ça. Précise est un mot compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce que c'est, mais les angoisses d'un moment, les insatisfactions ne sont pas les mêmes aujourd'hui avec le chômage, les problèmes de migrants, je ne sais pas pourquoi on les appelle migrants, mais c'est des réfugiés, d'immigrés, de Front National, ce n'est pas les mêmes. Comment les dire? Les politiques le disent avec leurs mots, ça ne satisfait pas grand monde. Les jeunes... Jeune, avec un D, selon le milieu jeune auquel ils appartiennent, le voient de différentes façons. Il y a des discours politiques, il y a des discours d'activistes. La sensibilité de ça, comment trouver les mots pour le dire? C'est, voilà, c'est ce que veut dire l'air du temps. Donc, ce n'est pas une formule vague qui raide, on hume comme ça une espèce de parfum. C'est vraiment des problèmes émergents, des problèmes d'identité, souvent, de désir d'insatisfaction et aussi de plaisir. Hein, j'insiste sur la part négative, là, mais aussi, mais qu'est-ce qui fait qu'on est nous-mêmes en ce moment ? Ben, tiens, mon papa, il se croit jeune parce qu'il écoute du rock, moi, ce n'est pas ça que j'écoute du tout, et lui, c'est un ringard, et qu'est-ce que j'écoute pour exister ? Donc, cette façon d'augmenter collectivement son sentiment d'exister à travers quelques morceaux de musique, c'est d'une puissance évidemment incroyable. Donc puissance, ça veut dire que ça peut servir à ramasser beaucoup d'argent. Puissance, ça veut aussi dire que c'est une puissance, presque au sens deleuzien, puisqu'on parlait de pop philosophie, d'être plus soi-même, et soi-même collectivement. C'est même pas tout à fait négligeable. Donc en fait, la pop philosophie, quand on s'intéresse au tube...
Le tube, donc, il y a non pas des recettes toutes faites pour produire un tube jusqu'au bout, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quand même évidemment un cadre qui est utilisé par les producteurs au sens large, mais que justement, ce qui fait le tube, c'est cette chose indéfinissable sur laquelle vous essayez néanmoins de mettre le doigt, Antoine Aignon, qui va être captée dans l'air du temps par les producteurs et reçue dans cette immédiateté hein, de la diffusion musicale par le public. Comment vous voyez...
Un peu un cadre de deuxième degré, oui. Il faut tous ces cadres, mais un producteur, c'est quelqu'un qui joue avec le cadre pour aller un peu plus loin ou lui échapper. C'est ça qui fait que le rapport entre fabrication est inexplicable et difficile à poser. C'est qu'il faut le cadre pour pouvoir lui échapper sans être sûr que ça marche. Donc ça fait une géographie du tube assez compliquée.
Qui est pour vous le plus grand producteur de tubes, puisque j'imagine qu'il y en a qui ont quand même. Est-ce que vous avez identifié comme ça des figures, des personnalités dont vous avez constaté qu'elles avaient un flair particulièrement aiguisé pour ça ?
Donner des noms, mais ça dépend pas mal des périodes. Là, moi, au moment où j'avais fait, alors ça date d'un moment, j'avais fait une étude non pas sur le rock, mais sur les variétés. Et précisément avec cette idée-là, déjà, j'aurais pas formulé dans les mêmes termes. Puis c'était, mais bon, on peut travailler sur, si on travaille sur l'économie du disque, vous l'avez mentionné. Regardons le marché de la musique contemporaine, le jazz sophistiqué. Et non, l'endroit où on fait de la musique populaire, c'est même pas le rock à l'époque. C'était les yéyés et les variétés. Alors là, il y avait 4 ou 5 grands producteurs. Donc, quand on regarde la liste des artistes qui sont passés entre leurs mains et qui ont fait un succès, est impressionnante. Le milieu rock dont je parlais, c'est une autre forme où les producteurs ont été absolument décisifs. Donc, des producteurs assez particuliers, c'est pas l'intello du groupe parce que c'est assez peu intellectuel. C'est celui qui a une position légèrement décalée par rapport aux autres. Donc, la caricature, c'est Brian Epstein, mais il y en a plein d'autres. Très proche des groupes en question et avec une visée commerciale, mais ce ne serait pas commercial dans un sens un peu premier degré. C'était aussi, nous, avec ça, on peut faire quelque chose. L'autre, il dit, moi, je fais ma musique. Et là, il y a eu l'invention d'une forme de production qui s'est répandue alors, dans tous les milieux. C'est-à-dire que cette espèce d'accompagnateur, guide, qui a pris des noms différents, directeur artistique en France, plus personne ne dit ça, mais après, il y a tous les coachs. Alors après, je connais moins... empiriquement ce qui se passe du côté d'Internet, parce que c'est vrai que ça doit changer assez considérablement ce que les économistes appellent la prescription. Qu'est-ce qui dit aux gens où et quoi il faut acheter, même si il faut est un peu ironique, ce serait bien que vous l'achetiez. Ça, ces formes-là changent beaucoup. Au niveau de la production, ça dépend vraiment des formes de musique. Il y a un aspect de ces éléments-là dont on n'a pas parlé un tout petit peu au début, là. Parce que j'ai plus mis l'accent sur cette espèce de génération quasi-politique de milieu, d'identité en formation. Il n'y a pas que ça. C'est même une des choses intéressantes dans le tube, c'est qu'elle court-circuite aussi cet aspect particulier, universel. C'est pas seulement un jeu d'identité. Tiens, moi, c'est le rap de banlieue de ces années-là contre le rap commercial. C'est aussi quelque chose d'universel, pas au sens d'un absolu au-dessus, mais de ce qui est partagé partout dans le rythme. Non, non, non. Vous écoutez, je sais pas, les Four Tops, la Reach Out, I'll Be There. C'est pas très bien fait. Ça démarre, ils attendent juste 2 mesures de plus que ce qu'on supposerait qu'il faudrait faire avant d'y aller. Ils y vont à fond les manettes. La voix est parfaite. Les chorus sont faits à l'américaine. Il y a un type qui reste debout comme ça, allongé sur son fauteuil. C'est qu'il a un problème. Et donc, cette machinerie-là, dont une base est rythmique, alors vraiment c'est l'anthropologie fondamentale, il n'y a pas un peuple qui n'est pas tapé sur des tambours en rythme, d'un côté, et la voix de l'autre, Donc j'enlève presque toute la musique. Parce que si vous enlevez les instruments et les harmonies, ça enlève beaucoup de musique. La voix, qui peut être évidemment la voix qu'a travaillé l'opéra italien en particulier, mais même avant l'opéra français, il y a aussi la voix, c'est de la musique. Un truc non maîtrisable, tiens, comme le tube. On a la voix qu'on a, un peu cassée, ou au contraire très, très aiguë, belle. Elle exprime immédiatement quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Ben ça aussi, c'est un vecteur de puissance forte. Donc là, on change un peu de registre, mais j'aime bien cette idée que ça additionne des registres, parce que c'est ça qui explique aussi pourquoi on ne peut pas l'expliquer. On peut parler des fabrications, des efforts, des registres sur lesquels ça se déploie. On ne peut pas dire à la fois, ben, je vais vous faire le truc, rythme universel, voix émouvante, intro musicale parfaite, hein, et qui saisissent les besoins d'identification, d'expression de soi d'une génération qui n'existe pas encore, mais qui va se former. Oui. C'est difficile à calculer. Oui.
Comment vous voyez quelque chose qui est devenu un courant musical presque en soi, hein, ces dernières années, qui est le phénomène de la reprise, qui s'est toujours pratiqué, qui est même à l'origine de certains genres musicaux, enfin, je pense au reggae, par exemple, qui était vraiment une industrie fondée sur la reprise de différents rythmes, justement. C'est très intéressant par rapport à ce que vous venez de dire. Mais on va dire depuis une dizaine d'années, véritablement, les compilations, il y a même des compilations thématiques de reprises, des séries de compilations qui existent. Il y a des disques entiers, des albums qui sont sans plus aucun scrupule, j'ai envie de dire maintenant, consacrés à cette pratique-là. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement répandu. Est-ce que, du point de vue de cette fabrication du tube, comment vous voyez cette explosion
Vous avez raison, je pense que, à cause des moyens techniques nouveaux qui permettent des covers, c'était le home studio aussi. Hein. Je pense que c'est tout à fait lié à notre problème, en effet. Ces moyens-là ont donné à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la force de la répétition, une autre ampleur. Répéter, c'est pas dire la même chose, c'est le refaire, et le refaire, c'est faire autre chose, c'est la définition de la reprise. Ça peut être le truc le plus banal, là, une mauvaise version qui ressemble beaucoup. En général, c'est jamais ça. C'est le fait même d'avoir d'autres instruments, de le faire légèrement décalé, etc. Refait de l'œuvre autre chose. Et la soutient, des philosophes, lui permet de durer. Or ça, techniquement, la façon dont on le fait, c'est en effet relativement nouveau. Quand j'ai cherché mes exemples, juste pour les passer tout à l'heure, quand on tape sur Google un titre maintenant, on a le titre, si on a de la chance, mais on a les 15 covers. Oui. Donc c'est effectivement tout à fait nouveau. C'est bien la reprise, pour le coup, des techniques ancestrales, des thèmes et variations. Je veux dire, la musique classique n'a pas arrêté, quand un thème s'est développé, de le reprendre pour lui donner consistance, le faire varier, le faire vivre. Donc là, il y a une sorte de numérisation et d'internetisation et de mondialisation d'une technique qui est essentielle et qui dit quelque chose de très profond sur la musique. C'est qu'un tube produit en 58, même si on écoute la version de 58, on l'écoute aujourd'hui. Donc on est en train, qu'on le veuille ou non, d'en faire un cover. Son propre cover personnel, ma façon de l'écouter dans ma baignoire ou dans mon fauteuil. Et le fait de thématiser ça, enfin de le transformer en disant, bah, tiens, je vous donne la musique, mais je la donne aussi avec la façon dont moi je l'écoute, et dont vous l'écouterez un peu différent de moi qui l'écoute, c'est multiplier la musique. Mais dans une salle de concert, c'est sûr que tout le monde écoute la même musique. Donc c'est un déploiement, je dirais, technique très intéressant de ce qu'était la musique, toujours avec cette dimension d'une... Je ne sais pas comment appeler ça, faut des oxymores, une répétition créative. Bah, et cover, ça ressemble quand même beaucoup... avec un mot anglais, une répétition créative.
On se demande du coup si le développement accéléré de l'Internet ces dernières années aussi, et notamment dans le domaine de la production et de la diffusion musicale, c'est vrai que vous le soulignez, ça permet de toucher une communauté d'auditeurs beaucoup plus large et globale, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un tube peut être mondial presque, j'ai envie de dire, potentiellement, hein, un tube est mondial. Et en même temps, ça veut dire que ça crée aussi de multiples communautés d'auditeurs pour lesquels peut-être des communautés relativement réduites, pour le coup, par contre, mais ou peut-être des tubes peuvent advenir aussi, mais à une échelle peut-être moindre, mais néanmoins significative.
Oui, c'est très juste. Ouais. Ça, c'est une analyse de l'Internet. Parce que c'est vrai pour des tas de domaines, c'est-à-dire que un peu comme ce qu'on disait au tout début, là, ou bien c'est tout fabriqué, uniformisation d'un truc mondial unique, ou bien c'est la liberté, tout le monde fait ce qu'il veut et communique avec tout le monde. Donc on est dans une espèce de dualisme. Internet, ça le définit assez bien. C'est-à-dire que c'est à la fois le like là, que je ne veux pas supporter, là, où un truc tourne en boucle, puis d'un seul coup, on a un nombre de millions de spectateurs que ça n'a jamais existé auparavant. Donc, concentration sur quelques noms, au demeurant très éphémère, un truc qui se renouvelle très vite, hein, donc il ne faut pas non plus penser qu'il y a une espèce d'uniformisation aussi dans le temps. Hein. Mais donc, concentration, donc, c'est comme une courbe un peu... on appelle ça une asymptote. Quoi. Il y a la petite partie très concentrée atteint des dimensions gigantesques et mondiales, mais l'Internet est un instrument aussi pour l'amateur d'opéra français du début du 19e. Il y a trois amateurs dans le Kansas, deux en Chine, et ils discutent entre eux. Donc c'est aussi un outil de collectionneur, de maniaque des petits genres, et ça les répand. Et c'est aussi une mondialisation, puisque c'est une espèce de réseau qui ne dépend plus des liens réels, personnels ou spatiaux avec un petit milieu, mais qui passe uniquement par son goût pour une certaine musique, pour créer une petite communauté, c'est en effet très fort. Et vous avez raison, là où c'est important, c'est que c'est pas étanche, ces deux milieux-là. Si quelque chose, je sais pas, le reggae en Jamaïque, un tout petit peu avant ça pour l'expliquer comme ça, mais ce genre de musique commence à accrocher et qu'on a tous les intermédiaires qui, eux, le petit producteur, là, celui qui est légèrement décalé, qui veut en faire quelque chose d'autre, qui le développe, là, pour le coup, les machines exponentielles d'Internet sont là pour le saisir. Donc, ça, c'est un bon analyseur des nouvelles économies Internet, je pense.
Merci beaucoup, Antoine Aignan.
Merci
on vous retrouve ce soir à la Cité de la Musique pour une conférence à 20h. Le tube, et si au lieu de le chercher à l'expliquer, on se demandait qu'apprendre de lui, et vous l'avez compris, il y en a des choses à apprendre sur le tube, quoi qu'on en pense. C'est donc ce soir une conférence qui sera précédée à 18h d'une autre conférence avec Françoise Gaillard, historienne des idées au Centre de la Vieille Charité au CIPM, précisément le syndrome de la frite, Barthes et Sherlock Holmes, tout un programme. Tout le programme de la semaine de la pop philosophie qui se déroule jusqu'au 31 octobre à Marseille sur le site semaine-de-la-pop-philosophie.fr avec notamment un week-end intitulé Goodbye Postmodern, Hello New Realism, au revoir donc au postmodernisme et bienvenue au nouveau réalisme courant. Au sens large philosophique sera représenté par plusieurs intervenantes le 30 et le 31 octobre principalement au centre de la Vieille Charité. Merci Antoine Aignan, vous étiez accompagné de Jacques Serrano qu'on n'a pas entendu, qui n'est pas intervenu mais que nous remercions également pour sa présence dans notre studio, initiateur de cette semaine de la pop philosophie. Bonne semaine pop philosophique à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
À ce soir et on se quitte avec je ne sais pas si ça a été un tube au début du XXe siècle, le concerto des Aranjuez, qui a été là encore l'objet de multiples reprises. Ici, c'est une reprise faite par une fanfare britannique, elle-même assez célèbre, le Grimthorpe Colliery Band, mais le tout réarrangé par des producteurs de musique électronique marseillais, nos amis de la Dame Noire, alias Digestif et Relatif Yann. C'est donc
cover.
C'est ça. Pour terminer cet entretien, En Aranjuez Con Tu Amor, je crois, ça s'appelle Relatif Yann et Digestif, Edith Serti sur l'un des derniers EP de La Dame Noire, l'un de nos labels favoris à Marseille. On écoute ça. Au revoir.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.